Radio Livre Dormir.
Radio Livre Dormir.
Radio Livre ou Dormir.
Retransmission de rencontres littéraires.
Le matin, de 8h
à 10h,
le jeudi matin.
Radio Livre ou Dormir.
Retransmission de rencontres littéraires.
92.2
sur Canal Sud.
92.2.
Rencontre avec Fabrice Rissé-Pouty autour de son livre « Ici, on noya les Algériens » paru aux éditions du Passager clandestin. Le 19 octobre 2021, à la librairie Terra Nova.
Bonsoir à toutes et tous. Merci d'être là. Et merci à Fabrice Rissé-Pouty d'avoir accepté notre invitation. Alors cette rencontre, elle a lieu au milieu d'une grande tournée que fait Fabrice à l'invitation de pas mal de librairies et puis beaucoup de médias ces derniers jours. Donc Le Passager clandestin a eu la bonne idée de rééditer ce formidable livre. Si vous ne l'avez pas lu, je vous le conseille. Qui était sorti en 2015 et qui est ressorti en septembre de cette année. Donc c'est tout frais. Et puis c'est une belle édition qui sert le propos. Donc on est ravis de vous accueillir pour cette rencontre. Peut-être dire que Fabrice Rissé-Pouty est jeune retraité de l'éducation nationale, historien. Il anime aussi deux sites, histoirecoloniale.net et 1000autres.org, si ma mémoire est bonne. Voilà, il pourra peut-être nous en parler un petit peu. Merci.
Alors, bonsoir, je suis très content d'être à Toulouse, dans cette magnifique librairie, que je remercie évidemment. On va faire comme ça, un peu de façon assez habituelle. Je vais parler, j'essaie de pas parler trop longtemps. Ensuite, j'espère qu'on échangera. Alors, je vous propose de revenir d'abord rapidement sur l'événement dont il est question, le 17 octobre 1961. Ensuite, de vous parler un petit peu de ce que j'ai appelé dans mon livre la bataille des Nodis, c'est-à-dire du rôle qu'a joué Jean-Luc Enaudi dans le retour à la mémoire de la République française de cet événement. Et enfin, peut-être de ce qui s'est produit ce week-end, avec l'initiative politico-mémorielle de l'actuel président de la République, sur laquelle il y a matière à dire pas mal de choses. Voilà. Alors, le 17 octobre 1961, tout le monde sait, ou presque tout le monde sait, qu'il s'agit d'une répression, mais c'est d'abord une manifestation, au moins une tentative de manifestation. De qui ? Eh bien, donc d'Algériens immigrés en France, d'Algériens immigrés en France qui ne se sont pas dépouillés de leur statut de colonisés en traversant la mer Méditerranée. Hein, en France, on les appelle depuis l'après-Deuxième Guerre mondiale les Français musulmans d'Algérie. Ils sont des travailleurs, très souvent dans l'industrie automobile, dans le bâtiment. Il y a encore beaucoup plus d'hommes que de femmes à ce moment-là. Ils vivent dans des quartiers de relégation, et notamment de très nombreux bidonvilles dans la région parisienne, le plus célèbre étant le plus grand d'entre eux, qui s'appelait La Folie, à Nanterre. Mais aussi au centre de Paris, dans des quartiers que la police appelle d'ailleurs les Médinas, hein, dans son jargon, c'est-à-dire par exemple le quartier Saint-Séverin dans le 5e arrondissement, où ils vivent dans des hôtels meublés, où souvent ils louent des lits sur lesquels ils se relaient pour dormir, etc. Bien. Donc il s'agit donc d'une population, évidemment, je dirais assez directement que... Le 17 octobre montre que leur vie comptait peu et qu'on ne comptait pas leur mort. Eh bien, c'est pas nouveau. Hein. Le 17 octobre, c'est pas un coup de tonnerre dans un ciel serein. C'est quelque chose qui est l'aboutissement d'une longue histoire. Ces Algériens, on les appelle Français musulmans d'Algérie dans le langage officiel, mais dans la population française, on les appelle pas comme ça. Hein. Il y a une richesse extraordinaire du vocabulaire raciste à leur égard. On les appelle Biko, Bougnoul, Raton, j'en passe et des pires. Et donc ils sont, en réalité, ils sont, comme on dit aujourd'hui, racisés par au moins par 132 ans de colonisation de l'Algérie, hein, pendant laquelle on a construit leur image comme étant des gens, notamment du fait de leur religion, des gens dangereux, fanatiques. Hein, le fanatisme est quelque chose qui est très souvent mis en avant pour les qualifier. Et on lit dans les propos de l'époque des mots qu'on retrouve dans la bouche des islamophobes d'aujourd'hui, hein, telle qu'elle, y compris dans celle de Maurice Papon, par exemple. Bon, voilà. Alors, cette population qui est donc à une place extrêmement subalterne dans la société française, à plusieurs titres, hein, eh bien, ce 17 octobre, c'est probablement la première fois qu'elle sort en masse de la place qui lui est assignée, à l'appel donc de la Fédération de France du FLN, qui appelle les Algériens de la région parisienne à désobéir à un couvre-feu qui a été fortement conseillé par Papon. Ce sont les termes exacts. Et contrairement à ce que dit le communiqué de Macron le week-end dernier, il n'y a pas eu de décret. Hein, c'est assez important. C'était une disposition tellement manifestement discriminatoire et illégale et contraire à la Constitution que on n'a pas pondu le moindre texte officiel. C'est une décision qui a été prise en conseil interministériel, donc au plus haut niveau de l'État. Ça aussi, c'est important. Et ça aussi, ça n'est pas dans la déclaration de Macron. Mais ça, c'est un communiqué dans la presse qui dit que le préfet conseille fermement, je ne sais plus le mot exact, aux Algériens de ne pas sortir de chez eux entre 5h30, entre 20h30 et 5h30 du matin. Ce qui, on le sait en consultant par exemple les archives du FLN, les rapports qui ont été rendus par la base du FLN sur cette affaire, que c'est vraiment la goutte d'eau de terreur qui fait déborder le vase. Hein. C'est-à-dire que ces Algériens, en réalité, ils sont depuis des semaines, des mois, sous une pression policière extrêmement violente. Hein. Une pression policière donc dont l'opérateur principal est Maurice Papon. Maurice Papon qui a été installé à la préfecture de police de Paris en raison précisément de son expertise de pacificateur colonial. Hein, on est allé le chercher en mars 58 à Constantine, où il régnait sur l'Est algérien et où il coordonnait la répression policière et militaire à un très haut niveau. Hein, on appelait ça la paponie. Et c'est là qu'il a appris le métier, si j'ose dire. Il a appris ce que les militaires français et appelé la doctrine de la guerre révolutionnaire, les méthodes de contre-insurrection, qui supposaient donc la torture, les rafles d'abord, la détention extrajudiciaire, la torture et les exécutions sommaires. Et c'est pour ça qu'on nomme Maurice Papon préfet de police de Paris, parce qu'il faut qu'il s'occupe du FLN en France, enfin en tout cas en région parisienne. Hein. Voilà. Alors il est nommé juste avant l'arrivée de De Gaulle, mais au pouvoir, qu'il arrive au pouvoir le 13 mai 58, mais il sera maintenu par De Gaulle jusqu'en 1967. Hein, autrement dit, voilà, après avoir été félicité plus d'une fois par le président de la République. Bien. Et donc c'est Maurice Papon qui, apprenant cet appel a été lancé par le FLN assez tardivement, dispose plusieurs milliers d'agents des forces de l'ordre, de toutes les catégories existantes de forces de l'ordre à l'époque, y compris des gens qu'il a fait venir parfois d'Algérie, qu'on appelle les harkis de la police, les forces de police auxiliaires, qui étaient là pour faire vraiment le plus sale boulot que pouvaient assez, quand même assez difficilement faire les fonctionnaires de police français, c'est-à-dire notamment la torture et les descentes meurtrières dans les bidonvilles, où ils détruisaient les baraques, ils tabassaient, ils volaient aussi beaucoup, hein, ils pillaient même littéralement. Il y a de très nombreux témoignages là-dessus. Bien. Donc on dispose des forces de police qui ont la consigne d'empêcher absolument, à tout prix, hein, et ceci alors que Papon a plusieurs fois émis des messages à l'intention de ses agents, leur faisant comprendre qu'il serait que l'impunité leur serait garantie, qu'ils ne risquaient rien. Hein. Et donc ils ont la consigne d'empêcher à tout prix que se produise cette chose absolument obscène pour le gouvernement français à cette époque, c'est qu'apparaissent dans l'espace public, dans l'espace dans les beaux quartiers de Paris, sous les fenêtres du général de Gaulle, que ces gens fassent irruption dans l'espace politique dans lequel ils n'ont aucune place, hein, et prétendent jouer, osent prétendre jouer un rôle de sujet politique à part entière, d'acteur politique. Ça, c'est parfaitement inacceptable. Hein. Je pense que ceux qui ne savaient pas encore à l'occasion de ce 60e anniversaire ont appris l'essentiel de ce qui s'est passé ce jour-là. C'est-à-dire, d'abord, premièrement, une rafle gigantesque qui est la plus grande rafle depuis la Deuxième Guerre mondiale, puisque la préfecture elle-même dit avoir interpellé en quelques heures près de 12 000 personnes, ce qui est considérable sur une manifestation dont elle dit qu'elle comptait environ entre 20 et 30 000 manifestants. Alors, sur le nombre exact de gens qui sont sortis ce jour-là, on ne saura jamais rien d'autre que ça, hein, bon. Mais bon, c'est une rafle considérable, hein. Donc, on embarque d'abord les gens. Alors, on les embarque aux entrées de Paris, mais on va parfois même les chercher à la sortie des usines, à la sortie des hôtels meublés. On les embarque à la sortie des métros lorsqu'ils ont réussi à rentrer dans... Et les bus de la police, les véhicules de la police n'y suffisant plus très rapidement en début de soirée, on réquisitionne, comme on l'avait fait en juillet 42 lors de la rafle du Veldiv, les autobus de la RATP. Ces autobus de la RATP, ils rentreront au dépôt couverts de sang. Ça provoquera des pétitions des agents chargés de les nettoyer, parce que ces autobus, ils emmènent les Algériens dans des lieux de détention qu'on a dû improviser. On a réquisitionné le palais des sports de la Porte de Versailles, le stade Gymnase Coubertin et bien d'autres lieux encore. À l'entrée et à la sortie des autobus, la police pratique cette espèce de rituel d'humiliation et de brutalisation qu'elle appelle elle-même le comité d'accueil, c'est-à-dire qu'on fait passer les Algériens entre deux rangées de flics qui leur tapent dessus. Qui leur tapent dessus, dit François Mespero, qui était témoin, comme des bûcherons, hein, avec notamment, alors à coups de crosse, à coups de casque, à coups de bidule, c'est-à-dire de cette longue matraque de bois extrêmement dure de plus d'un mètre qui pouvait fendre les crânes. Et on sait que dans l'un des commissariats, j'ai oublié lequel exactement, on a dû remplacer 60% des bidules de la compagnie qui avaient été brisées. Bien. Donc on blesse très gravement. Et on entasse tous ces gens qui vont croupir dans leur sang, dans leurs excréments, sans soins, parfois sans être nourris ni hydratés pendant plusieurs jours. Hein, bien. Mais aussi, donc, un peu partout en région parisienne et dans Paris, la police tue. La police tue. C'est ce que M. Darmanin ne veut pas qu'on dise aujourd'hui, donc je le répète. Donc elle tuait, et il est vrai qu'elle tue encore, beaucoup moins, mais elle tue encore. Bon, pardon, je fais des digressions un peu, c'est la fatigue. Elle tue. Alors elle tue en utilisant toutes sortes d'armes réglementaires ou non. Hein. On a aussi des flics qui sont venus avec des nerfs de bœuf, des barres de fer. On a retrouvé des gens garrottés avec des câbles de bicyclette qui équipaient la police parisienne. Bref, et on se livre à cette autre sorte de rituel de déshumanisation finale de l'ennemi, qui était déjà pratiqué par les catholiques lors de la Saint-Barthélemy, qui consiste à jeter les gens, soit déjà morts, soit assommés, soit encore conscients, dans les cours d'eau, hein, comme un détritus, comme une bête crevée. Et ça se produit donc à un certain nombre de dizaines d'exemplaires sur un grand nombre de quais, de ponts de la région parisienne. Alors, on le sait parce que Donc des corps seront repêchés dans les jours qui suivent, et parfois jusqu'aux écluses à proximité de Rouen. Bien. Voilà. Alors, dans la nuit même, du 17 au 18 octobre, vers minuit, la préfecture de police sort un communiqué de presse qui arrête définitivement la version officielle, qui restera la version officielle jusqu'à ce jour, selon laquelle, donc d'abord, les Algériens étaient violents, alors que, j'ai oublié de le dire, la consigne leur avait été donnée, alors que certains voulaient en découdre, hein, parce qu'il y avait une forte demande de la base du FLN de riposter aux violences subies depuis notamment le début septembre, de la part de la police. Donc on leur a donné la consigne de ne pas être porteurs même d'un canif. Il y a eu des fouilles dans certains départs de cortège. Et les gens sont venus souvent en famille, hein, il y avait des femmes et des enfants. On en voit sur certaines photographies. Il y a des enfants aujourd'hui qui sont de vieux adultes et qui en témoignent encore. Ils ont souvent mis leurs plus beaux habits. Et ils sont là donc pour manifester en premier lieu contre une discrimination raciste. Hein. C'est le couvre-feu, c'est une disposition proprement raciste qui d'ailleurs est appliquée aux faciès. Hein, ça fait déjà d'ailleurs des semaines que les ambassades de tous les pays du monde qui ont des populations à la peau brune et aux cheveux plus ou moins bouclés ou crépus protestent parce qu'on brutalise leurs ressortissants à Paris. C'est le cas par exemple du prix Nobel de littérature Gabriel Garcia Marquez qui s'est fait malmener dans les années... Alors bien avant, hein, je crois que c'est en 55. Hein, bon. Donc voilà. Pardon, j'ai perdu un peu le fil. Oui, alors Maurice Papon, donc il arrête définitivement le bilan. Et le bilan, c'est un bilan qui donne 3 morts, mais parce qu'il est obligé de les retenir. Je pense qu'il avait un tel sentiment d'impunité qu'il aurait très bien pu n'en retenir aucun. Je vous dirai pourquoi il était obligé de les retenir. D'ailleurs, Roger Frey, quelques jours après, déclare « il ne s'est rien passé ». Hein, le 17 octobre, il ne s'est rien passé. Roger Frey, c'est le ministre de l'Intérieur. Bon, Libération titrera « Roger Frey existe-t-il ?» Ce qui montre qu'il y avait quand même quelques réactions. Alors, il reconnaît la mort d'un Français devant le cinéma Rex, le Grand Rex, parce qu'il est Français, et que donc lui, il est compté. Hein. On prétend qu'il est mort d'une crise cardiaque. En réalité, on sait qu'il a eu la nuque brisée par un coup de crosse de fusil. Et il reconnaît la mort de 2 Algériens tués par balle au pont de Neuilly parce qu'une dépêche de l'AFP, malheureusement, l'a signalé dans la soirée. Mais voilà. Et alors, le sentiment d'impunité, il est vraiment éclatant puisque cette affaire s'est passée devant des milliers de témoins. Hein, bon, des témoins parisiens qui sont très nombreux dans les rues à 20h, hein, sur les boulevards, là où les Algériens ont tenté de se regrouper, et ont parfois réussi à le faire. Ils ont vu, hein, ils ont vu, mais alors c'est très difficile de faire des généralisations sur les réactions des témoins. Hein. On a des témoignages d'actions de solidarité. On a aussi des témoignages d'encouragement à donner à la police, voire d'assistance. Des civils qui étaient dans la rue aux violences policières. Donc, très rapidement, le gouvernement arrive à imposer le silence à une opposition qui existe. Alors, on n'est pas à Alger en 1957, par exemple. Hein. Dans ses mémoires, Maurice Papon dit « Ce que j'ai fait à Paris avec la police, c'est ce qu'a fait le général Massu à Alger avec les parachutistes ». J'ai combattu le terrorisme et j'ai gagné la bataille de Paris. C'est comme ça qu'il l'appelle. Hein. Il a pas tort. C'est effectivement comme ça qu'il voyait les choses. Sauf qu'à Paris, il y a quand même, bien sûr, c'est un peu moins facile parce que c'est un massacre colonial, mais un massacre colonial délocalisé en métropole. Hein, et qu'en métropole, il reste une presse, une opposition, etc. Mais le gouvernement n'aura pas beaucoup de mal à faire taire tout le monde. Il va empêcher la tenue d'une commission d'enquête parlementaire, par un subterfuge juridique assez bien joué. Il va faire saisir, il ne faut pas oublier qu'à cette époque, on fait saisir les journaux, hein, qu'on les censure, qu'on va dans les imprimeries saisir les publications, dans les salles de cinéma arracher les bobines sur les projecteurs, hein, c'est la guerre. Et puis, il n'est pas trop quand même... Alors, il y a les réactions de la gauche, de l'opposition. Pour les grandes organisations de la gauche française, eh bien, c'est qui ? C'est la SFIO, d'abord, c'est-à-dire le parti qui était au pouvoir avec Guy Mollet, Robert Lacoste et François Mitterrand, qui, lui, s'est vautré dans la répression coloniale en Algérie, a une responsabilité écrasante dans l'accélération de la terreur durant la guerre d'Algérie, avec notamment le vote des pleins pouvoirs. Donc, elle n'est évidemment pas là, hein, ni le 17 octobre, ni après. Le Parti communiste français, qui à cette époque-là est un parti extrêmement influent dans la classe ouvrière et dans la société française, eh bien, il a des rapports très très tendus et de méfiance avec le FLN, une méfiance réciproque. On sait par exemple que au lendemain de l'instauration du couvre-feu, il y a eu des négociations clandestines, bien sûr, entre le PCF et le FLN. Pour éventuellement mettre au point une riposte commune, ça n'a pas été possible, parce qu'il y avait trop de points de divergence, et en particulier, la divergence importante, c'était que le Parti communiste français ne défendait pas l'idée d'indépendance de l'Algérie. Il défendait l'idée de paix en Algérie, ce qui était extrêmement différent. Hein, voilà, c'est un des points saillants de cette histoire. Et donc, le 17 octobre, les Algériens, ils sont tout seuls. La gauche n'est pas là. Hein, simplement, la Fédération de France a demandé à un certain nombre de militants, notamment du PSU, d'observer les choses pour témoigner d'éventuelles violences. Alors, ils ont été servis. Hein. La seule manifestation de rue de protestation, elle a lieu le 1er novembre 1961, et elle est organisée par le PSU. Il y a un petit bouquin qui vient d'être édité là, pour la première fois par l'Institut Tribune Socialiste, qui s'appelle « Riposter à un crime d'État », et qui raconte très bien comment ce petit parti, hein, de gens qui avaient quitté, des minoritaires de la SFIO, anticolonialistes résolus, avaient appelé à manifester, ont réussi à manifester malgré le quadrillage policier de Paris à cette époque. Il faut quand même se rappeler aussi, hein, que même si c'est pas facile sous le préfet Lallemand, à l'époque, c'était quand même très difficile de manifester. Hein. On se faisait vite casser la gueule par la police et on était dispersés très rapidement. Ils arrivent à faire manifester plusieurs milliers de personnes, 3 000, 4 000, à la place Clichy et sur un petit parcours. Bon, c'est le seul événement. Hein. Il y a eu une protestation d'intellectuels à la Sorbonne, place Maubert. Enfin bon, ça c'était très... Voilà, les étudiants ont aussi essayé, de l'UNEF ont aussi essayé de faire quelque chose, mais ils ont été dispersés très vite par la police. Mais le Parti communiste, lui, a sorti un communiqué le lendemain du 17 octobre disant « On ne sait pas bien du tout ce qui s'est passé, évidemment, il a protesté, mais il a aussi dit qu'il ne manifesterait pas. » Et 4 mois plus tard, se produit la tuerie de Charonne. La même police du même papon assassine donc 8 manifestants français communistes dans une manifestation antifasciste, puisque le Parti communiste a choisi donc là de dénoncer la menace fasciste que représente l'OAS, qui multiplie les attentats à ce moment-là, y compris en France. Et c'est ça que choisira la gauche française, surtout la gauche communiste, comme symbole de la répression pendant la guerre d'Algérie. Je m'aperçois que je suis vraiment très très long sur le... Il va falloir que j'abrège. Bon. Il y a un acte commémorateur, un acte commémoratif fondateurs pour les morts de Charonne, ce sont leurs obsèques. Hein, il y a une des plus grandes manifestations de l'histoire de France qui accompagne les obsèques des morts de Charonne au Père Lachaise. Et pendant les années qui suivent, Charonne est commémorée. C'est d'ailleurs plus tellement le cas aujourd'hui. Hein, mais on pourra en parler. Bon. Voilà. Et s'installe ensuite le silence. Hein, le silence. Alors pas, évidemment, les gens qui ont vécu tout ça, eux, n'ont pas oublié, mais dans la société française, on n'en parle plus pendant un grand moment, jusqu'aux années 80, où ça ressort, notamment dans l'immigration, dans la deuxième génération de l'immigration algérienne antiraciste, qui, elle, à nouveau, est confrontée aux discriminations, au racisme, aux crimes racistes, qui sont très nombreux dans les années 70 et 80 en France, qui sont impunis, eux aussi, hein, comme l'ont été ceux qui ont eu lieu pendant la guerre d'Algérie, et qui découvrent parfois, tout seuls, l'événement en question, et qui découvrent ensuite que leur père ou leur mère étaient au 17 octobre et ont parfois été victimes de violences parce que très souvent, alors ne généralisons pas trop, mais très souvent, il y a de nombreux témoignages en ce sens, les pères n'ont pas voulu raconter. Hein, et parfois, ils ne se sont mis à le raconter que quand c'est devenu une information officielle, quoi, le 17 octobre, quand c'est sorti, et là, ça a pu déclencher les choses, et puis ça a accéléré aussi le questionnement des enfants. Bon, bref. Voilà. Alors, moi, mon bouquin, je consacre une grande part de ce livre, donc, au rôle qu'a joué un personnage qui, avec le recul, est tout à fait extraordinaire, surtout dans le contexte, je dirais, intellectuel et politique d'aujourd'hui, qui s'appelait donc Jean-Luc Einaudi. Alors je vais aller vite parce que sinon j'en en a pour encore deux heures. Jean-Luc Einaudi, c'est véritablement un enfant de mai 68. Après mai 68, il milite dans une des très nombreux groupuscules d'extrême gauche qui fleurissent à la gauche du Parti communiste. Lui, il est dans un mouvement maoïste, mais maoïste tendance, on les appelait les maostals. Il devient rédacteur en chef de l'Humanité Rouge. C'est là qu'il apprend à écrire, à enquêter aussi un petit peu. Et c'est là que les vieux de l'organisation, comme dans toutes les organisations gauchistes de l'époque, chez les trotskistes, chez les libertaires, etc., les vieux qui ont été souvent des militants anticolonialistes, des porteurs de valises, etc., transmettent la mémoire de tout ça. Et dans les années 80, il faut se rendre compte que ces gens-là, ils voient parader au sommet de l'État des notables qui s'appellent Maurice Papon ou Roger Frey. Hein, Maurice Papon, il est ministre du budget de Valéry Giscard d'Estaing. Et Roger Frey, il est président du Conseil constitutionnel. Et évidemment, voir ces gens faire cette carrière, c'est véritablement insupportable. Et ça joue beaucoup dans le fait que un ami de Jean-Luc Einaudi qui s'appelle Georges Mattei lui donne des archives du FLN, qui sont des archives de témoignages internes du FLN, qui vont lui mettre le pied à l'étrier de son enquête. Voilà. Donc après avoir travaillé sur l'affaire Fernand Yvetot et écrit la seule histoire de l'affaire Fernand Yvetot qui existe, je peux pas développer, il s'attaque au 17 octobre. Il s'attaque au 17 octobre, il n'est historien ni de formation ni de métier, il est éducateur à la protection judiciaire de la jeunesse, et ce qu'il fait, il le fait sur son temps libre, à ses propres frais. Hein. Alors il tente évidemment d'accéder aux archives de la police et de la justice, ces archives lui sont refusées. Alors elles lui sont refusées, en fait c'est simple, à l'époque il y avait un délai de communicabilité des archives qui était très long, c'était la loi de 79. Et pour accéder aux archives, il fallait faire une demande de dérogation, une demande de passe-droit. C'est quelque chose qui existe toujours aujourd'hui. Hein. Et elle était accordée ou pas, en fonction de la personnalité de la personne qui demandait. Et croyez-moi, la préfecture de police, on n'accordait la dérogation qu'aux amis de la police. Hein. Et donc des gens comme Jean-Luc Einaudi, évidemment, on lui refuse l'accès aux archives de l'État. Bon, et en partie pour cette raison-là, mais aussi parce qu'il sait que dans les archives de l'État, il y a surtout du mensonge et de la dissimulation quand il s'agit d'un crime d'État, il se lance dans la collecte de témoignages. Et il part, par exemple, pendant ses congés, en 85 ou 6, me semble-t-il, en Algérie, il a quelques contacts en poche, et il va à Constantine, il enquête sur ce que faisait Papon en Constantine, il va à Alger, il va en Kabylie, il rencontre des gens, il collecte des témoignages, il le fait également en région parisienne. Je vous invite d'ailleurs à écouter un podcast qui sort en ce moment sur la plateforme Binge, qui est constitué justement des archives qu'on a numérisées, des entretiens, des cassettes audio que Jean-Luc Einaudi a faites et qu'on a numérisées, qui sont donc la matière de ce podcast en 3 épisodes. J'ai oublié son titre, mais il doit y avoir 17 octobre dedans. C'est la plateforme Binge. Voilà. Et donc, Einaudi arrive à construire non pas le premier livre sur le 17 octobre 61, mais le premier récit historique d'ampleur fondé sur des sources nombreuses, avec une méthode de critique historienne des sources et qui contextualise l'événement, qui en fait un récit quasiment heure par heure de cette journée du 17 octobre. Et il va l'intituler, c'est évidemment une allusion à Maurice Papon, la bataille de Paris. Ça paraît en 91 et c'est un événement éditorial très important à ce moment-là. Mais ça ne touche que les cercles des gens qui lisent des livres d'histoire. Ce qu'il ne sait pas quand il publie ce livre, c'est que 6 ans plus tard, il va se retrouver confronté à Maurice Papon lui-même et qu'il va avoir à démonter les mensonges de Maurice Papon à quelques mètres de Maurice Papon. Mais à ce moment-là, Maurice Papon sera enfermé dans une cage de verre dans la cour d'assises de Bordeaux. Et ça, c'est en octobre 1997. Là, qu'est-ce qu'il fait là ? Maurice Papon n'est évidemment pas jugé pour ses crimes algériens. Ces crimes coloniaux, ils sont couverts par l'amnistie que la France l'auto-amnistie que la France a faite dès 1962, qui a interdit pour toujours toute poursuite judiciaire de tout ce qui a été commis pendant toute la durée de ce qu'on appelait encore les événements d'Algérie. Donc il ne peut pas être jugé pour ça. Il est jugé parce qu'on a découvert qu'avant ça, avant de devenir un pacificateur colonial, lorsqu'il était secrétaire général à la préfecture de la Gironde, à Bordeaux, il a activement participé à la déportation de 1600 juifs de Gironde vers Drancy, puis évidemment vers Auschwitz. Alors 16 ans après qu'on l'ait découvert, il est enfin jugé donc pour complicité de crimes contre l'humanité. Il ne devrait donc pas être question d'Algériens dans cette histoire. Mais les parties civiles juives, enfin au moins une d'entre elles, Michel Slitinski, et le MRAP en même temps, s'adressent à Jean-Luc Enaudi, qu'ils ont déjà entendu faire des conférences, etc., en lui disant « Il faut absolument que c'est toi qui peux venir exposer au tribunal ce que Vidal-Naquet appelait l'autre moitié de Maurice Papon. Hein, » Vidal-Naquet disait « Est-ce qu'on peut ne juger qu'une moitié de Maurice Papon en laissant l'autre dans l'ombre ?» Alors oui, on n'a pas pu la juger à proprement parler, mais elle a été exposée donc dans une déposition de plus de 2 heures, qui frappe véritablement le tribunal. C'est le procès Papon, c'est probablement le procès le plus médiatisé depuis 1945 en France. Hein. Donc il y a la presse du monde entier qui est là. Et le Jean-Luc Enaudi, qui n'a jamais témoigné que devant des juges pour enfants, eh bien, il arrive à la barre, et vous pouvez le voir sur Mediapart, encore sur le blog Histoire coloniale et postcoloniale. J'ai publié les 20 premières ou 25 premières minutes de cette déposition extraordinaire. On le voit donc en contre-plongée. C'est un film qui est fait en vertu de la loi Badinter qui est sur les procès historiques. Hein. Donc il y a une caméra au-dessus du juge et on voit Enaudi agrippé à l'immense barre des témoins. Peser soigneusement ses mots. Il y a Papon, qu'on ne voit pas sur l'image, mais qui est à 3 mètres. Et comme un bulldozer... Donc raconter ce qui s'est passé. Hein. Et donc ça, c'est vraiment la première diffusion dans le grand public, parce que tous les médias en parlent, de ce massacre oublié du 17 octobre 61. Par hasard, la déposition a lieu un 16 octobre en plus. Hein, donc le lendemain, c'est l'anniversaire. Donc il y a du 17 octobre 61 partout. Et ça oblige même l'État, le pouvoir, à réagir. À l'époque, c'est Jospin à Matignon et Chirac à l'Élysée. Et la ministre de la Culture, Catherine Trottmann, prend sur elle, parce que ça fait vraiment du bruit, hein, à l'Assemblée, tout le monde en parle, etc. Elle dit « Mais je déclare l'ouverture des archives sur le 17 octobre 61. » Une heure après, Jospin l'appelle en lui disant « Mais tu es devenue folle ?» Hein. Alors là, il a dû avoir un coup de fil de Chirac disant « Mais non, on n'ouvre pas les archives, il n'en est pas question. » Hein. Alors ça enclenche une autre bataille qui va connaître un point fort lors d'un autre procès qui se produit 2 ans plus tard, puisque Maurice Papon a l'étrange idée d'attaquer Jean-Luc Enaudi en diffamation, alors qu'il avait eu bien sûr l'occasion de le faire 50 000 fois depuis des années. Il le fait parce qu'il s'est pourvu en cassation et qu'il faut qu'il allège son dossier, qu'il peut espérer raisonnablement faire condamner Enaudi en diffamation quand on sait ce qu'est la loi et la jurisprudence sur la diffamation en matière de presse. D'ailleurs, Maurice Papon a fait condamner peu de temps avant son procès le Nouvel Observateur qui avait osé dire qu'il avait joué un rôle dans la déportation des Juifs de Bordeaux. Il a gagné le procès. Hein, c'est extraordinaire. Donc il arrive à ce procès assez confiant, hein, avec deux avocats extraordinaires, maître Varro, royaliste, et maître, je ne sais plus comment, bonapartiste, qui prennent Enaudi de haut, qu'ils traitent de pseudo-historien, etc. Et ce procès, en fait, c'est une grosse erreur de Papon. Enaudi en fait une tribune, où défilent, malgré la prescription et l'amnistie, des témoins, des victimes, de Papon, hein, des Algériens, même si tous n'ont pas eu le visa pour venir témoigner. Donc il y a 4 jours de procès qui font beaucoup de bruit encore une fois, et qui se concluent par ce que j'ai appelé la botte secrète à ce moment-là de d'Enaudi et de son défenseur Pierre Mérin. Ce sont deux archivistes, qui, dont un est parmi nous ce soir, Philippe Grand. Ce sont deux archivistes qui sont conservateurs aux archives de Paris, qui ont constaté déjà que Jean-Luc Enaudi était victime d'un traitement tout à fait particulier par les archives de France et les services qui accordent les dérogations, puisque ce qu'on refusait à Jean-Luc Enaudi, on l'accordait à d'autres. Et par ailleurs, ils connaissent très bien les archives judiciaires, les archives du parquet de Paris, et eux savent que dans ces archives-là, dont on refuse l'accès à Jean-Luc Enaudi, se trouve la preuve que Papon, que le bilan de Papon est outrageusement mensonger, qu'il y a eu bien plus de 3 morts le 17 octobre 1961. Et à la demande de la défense de Jean-Luc Enaudi, ils acceptent de venir dire ce qu'ils savent devant le tribunal. Ils font un geste qui, aujourd'hui, bah, nous paraît normal, hein, élémentaire. Voilà. Alors, leur témoignage est tout à fait décisif. Brigitte Lainé le fait oralement. Philippe Grand par écrit, mais ils disent tous deux la même chose. Et ça, c'est le coup de grâce pour Maurice Papon, parce que les archives, hein, ça fait preuve. Et ça fait preuve, y compris auprès de gens qui sont peu disposés à entendre la vérité. Alors, l'histoire aurait pu s'arrêter là pour ces deux archivistes. Or, pour eux, c'est le début d'une affaire qui va durer 6 ans, durant laquelle ils vont être victimes, on peut dire, d'une sorte de persécution professionnelle ou d'interdiction professionnelle déguisée, de sanctions illégales, mais extrêmement forte, de la part du directeur des archives de Paris, qui s'appelait François Ganneau, qui tente de les faire, de les expulser et de les faire partir, de les obliger à les dégoûter de leur présence aux archives de Paris, au point qu'ils décident de s'en aller, quoi. Hein. Il ne peut rien faire légalement, parce que Philippe Grand et Brigitte Lainé n'ont enfreint absolument aucune loi. Ils n'ont pas communiqué le contenu de dossiers judiciaires, mais seulement des registres qui ne donnaient pas d'informations qu'ils n'avaient pas le droit de donner. Donc il n'y a pas de poursuite judiciaire possible, il n'y a pas non plus de sanctions administratives. Le ministère de la Culture se garde bien de suivre les demandes de François Ganneau à ce sujet, mais il ne fait rien non plus pour empêcher François Ganneau de persécuter, comme je l'ai dit, Philippe Grand et Brigitte Lainé, qui ne vont plus pouvoir exercer leur métier pendant 6 ans. Je passe sur les détails que je raconte dans le livre. Philippe Grand prendra sa retraite sans un mot d'excuse et sans avoir pu reprendre son travail. Brigitte Lainé y restera un peu plus longtemps. Elle sera décorée de la Légion d'honneur, mais sans que la moindre allusion à ce qui lui est arrivé soit faite. Elle décédera en 19, bon, bref, sans un mot. Dans la nécrologie publiée par les Archives de France, il est dit qu'elle avait 18. Il est dit qu'elle avait, en gros, qu'elle avait des convictions. Voilà. Mais aucune excuse pour ce qu'on lui a fait subir. Hein. Donc, on en est toujours là à ce niveau-là. Voilà. Alors, je tiens à dire que je vais terminer là-dessus, hein, parce que ça doit faire un petit moment que je parle. Je dois dire que il faut souligner quand même le fait qu'il y a des signes qui montrent que la corporation des archivistes n'est plus ce qu'elle était. Ce qu'elle était, c'était une corporation extrêmement réactionnaire, très souvent réactionnaire, qu'il faut dire que Philippe Grand et Brigitte Lainé ont vu un grand nombre de leurs collègues exiger des sanctions et les mettre véritablement au banc de la profession. Hein. Je cite des choses tout à fait stupéfiantes dans le livre. Alors aujourd'hui, il y a une promotion d'élèves, il y a 2 ans, une promotion d'élèves archivistes qui s'est baptisée Brigitte Lainé, avec un beau texte expliquant bien que Brigitte Lainé et Philippe Grand avaient sauvé l'honneur de la profession et non pas enfreint je ne sais quelle règle. Et que dans les récentes batailles pour introduire un autre thème, que je ne peux pas développer, dans les récentes batailles qui ont eu lieu pour, contre les entraves aux nouvelles entraves aux archives sous le gouvernement actuel. L'Association des archivistes, qui est une association importante, très représentative, a été en première ligne et a montré que les archivistes ne pensent plus tous qu'ils sont les gardiens du secret d'État. Voilà. Bon, je pense qu'il vaut mieux garder la suite pour des questions. Merci.
Je ne suis pas un spécialiste d'archives, mais je ne suis pas un spécialiste de l'archive, mais j'essaye de suivre un peu ce qui se passe. Et j'ai l'impression qu'on est en pleine situation macronienne, c'est-à-dire que les archives sont à la fois ouvertes et fermées. Est-ce que vous pouvez nous préciser un peu ce...
Oui. Je réponds question par question ou j'en prends plusieurs ?
Alors, on va en prendre une deuxième.
Est-ce que vous pouvez préciser en quoi c'est un crime d'État ?
J'ai pas compris. Est-ce crime que... d'État, oui. Ouais. Mmh. Oui, ça nous conduira à... Bon, bah, je vais répondre à ces deux questions. S'agissant des archives, alors, la dernière loi qui a été votée sur les archives, elle a été votée en 2008. Elle a réduit les délais de communicabilité à 50 ans pour la plupart des archives. Alors, c'est plus compliqué que ça, hein. Il y en a où c'est plus long. Mais... Et en 2019, fin 2019, les chercheurs et les archivistes ont eu la surprise de recevoir une injonction d'un organisme qui s'appelle le Secrétariat général à la sécurité et à la défense nationale, leur disant aux archivistes, vous allez retirer de tous les cartons d'archives dans tous les centres d'archives de France, hein, tous les documents tamponnés secret ou secret défense, même lorsqu'ils ont dépassé, ils ont plus de 50 ans, c'est-à-dire qu'ils ont été déjà communicables, hein, et vous ne les communiquerez que lorsque le ministère qui les a versés aux archives les aura déclassifiés. Alors, ça s'appelait l'IGI 1300. C'est quelque chose qui avait été fait par Sarkozy en 2011, enfin par Sarkozy, sous Sarkozy en 2011, mais qui n'était pas appliqué, ou très peu, parce que c'était totalement dingue. Parce que ce que je viens de dire, là, ça concerne des millions et des millions de pièces que les archivistes devaient aller chercher dans les cartons, retrouver dans les cartons, retirer, mettre dans des enveloppes. Moi, je l'ai vu faire aux archives nationales, par exemple. Il y avait des enveloppes avec donc des pièces à l'intérieur qui avaient été retirées d'un certain nombre de cartons et une menace dessus visant l'archiviste qui oserait les communiquer. Donc, peine de prison et amende colossale, etc. Ça a provoqué cette demande, a provoqué la fermeture quasiment du centre des archives des armées à Vincennes et un tollé chez les archivistes en premier lieu et les chercheurs. Et il y a une bagarre donc qui a eu lieu, c'est à celle-là que je faisais allusion tout à l'heure, pour protester contre cette mesure. Ça s'est terminé par un recours au Conseil d'État qui a été déposé par un collectif dont la figure principale était l'historienne Raphaël Branche, avec des juristes, des archivistes. Le Conseil d'État a annulé cette disposition. Et ayant compris que le Conseil d'État allait annuler cette disposition, le gouvernement, en tout cas au sein du gouvernement, le lobby sécuritaire, on va dire, particulièrement fort, notamment depuis 2015, les attentats, s'est débrouillé pour introduire dans une loi sur le terrorisme, justement, un article dans lequel il est dit qu'en gros, je résume, hein, je ne peux que simplifier, les services de renseignement et le ministère des Armées peuvent déclarer incommunicables des pièces dont ils jugent, eux et eux seuls, hein, en toute arbitraire, qu'elles auraient encore une valeur opérationnelle. Alors là, c'est quelque chose d'extrêmement flou et qui peut permettre de rendre incommunicable un grand nombre d'archives, alors pas seulement sur le passé colonial, hein, ou sur la guerre d'Algérie, mais y compris sur les activités plus récentes des services de renseignement. Voilà. Moi, j'interprète ça comme une véritable prise du pouvoir de ce lobby sécuritaire sur la question des archives. Il est d'ailleurs frappant de constater que la ministre qui est de tutelle des archives, c'est Madame Bachelot, ministre de la Culture, elle a été absolument absente de tous les débats. C'est Madame Parly, ministre de des Armées, qui a intoxiqué les parlementaires, fait voter LREM comme un seul homme, en lui racontant d'ailleurs des mensonges aux parlementaires. Hein. Voilà. Voilà, donc c'est ça, c'est, voilà, en très résumé, voilà ce qui s'est passé. Alors, s'agissant de la notion de crime d'État, vous savez que depuis les années 90, ceux qu'on appelle les militants de la mémoire, par exemple, l'association Au nom de la mémoire, qui est toujours très active, avec des gens comme Mehdi Lalaoui ou Samia Messaoudi, revendiquent la reconnaissance officielle par la République du fait que le 17 octobre n'était pas une bavure, même gigantesque, n'était pas, mais était un crime d'État. Alors, qu'est-ce qu'on entend par crime d'État ? On entend que toutes les institutions de la Ve République ont été impliquées dans la perpétration du crime, dans sa négation. Hein ? Alors, la police, dont le nom est absent, le mot police est absent du communiqué de Macron. Hein. Le gouvernement, alors je pourrais expliquer après si vous voulez ce qu'il y a d'étonnant dans le 17 octobre sur le plan politique. Quoi, hein. Bon, alors c'est Debré qui directement responsable de la ligne de maintien de l'ordre, et De Gaulle laisse faire, on va dire, pour le moins. La justice, qui n'a rien fait, hein. La presse, notre institution, entre guillemets, qui a quand même relayé, en tout cas pour la presse à grand tirage, relayé la version officielle, etc. Donc, dans ce sens-là, c'est un crime d'État. D'accord ? Voilà. Et c'est donc ce que ne pouvait pas dire, toujours pas dire Emmanuel Macron, donc, lorsqu'il a décidé... Alors, quelque chose d'assez particulier quand même. Alors à la demande, en suivant une préconisation du rapport de Benjamin Stora, il avait donc annoncé qu'il ferait un acte symbolique le 17 octobre, ce qu'il a fait le 16 octobre. Donc déjà, en choisissant le jour de l'hommage national, enfin de l'anniversaire de l'assassinat de Samuel Paty, vous savez, ne croyez pas que je suis paranoïaque. La communication, elle est travaillée, on choisit les moments avec un grand soin. Hein. Quand on veut que quelque chose ait beaucoup d'écho, on ne choisit pas un jour où on parle d'autre chose. Bon. Donc, alors, il choisit le 16 octobre. Ensuite, il choisit un lieu qui est le pont de Beson, alors qu'il n'est évidemment pas un lieu absurde. Hein. C'est un des lieux du crime, mais ce n'est pas le lieu qui est installé comme une sorte de lieu de mémoire officieux, hein, pas officiel, mais c'est le pont Saint-Michel. Hein, bon. Donc il va au pont de Beson, il invite un certain nombre de personnes, dont certaines m'ont dit qu'ils avaient eu après coup l'impression d'avoir été manipulés, pas toutes, hein, et il fait un truc muet. Emmanuel Macron, on ne peut pas dire qu'il soit ennemi des discours, hein, et même des longs discours. Là, pas un mot. C'est une cérémonie muette, alors une cérémonie qu'on peut trouver émouvante, c'est-à-dire qu'il pose une gerbe au bord de l'eau, il se recueille pendant une minute, les gens qui l'accompagnent jettent des fleurs dans la Seine. Voilà, ça c'est ce que voient, ce que retiendront évidemment 98% des Français. C'est les images télévisées. Alors il avait déjà fait ça. De façon, c'est fait de main de maître, avec la reconnaissance de l'assassinat de Maurice Audin. Il est allé chez Josette Audin, hein, cette femme extraordinaire, héroïque, et on a eu des images extrêmement émouvantes, hein, de voir Josette Audin aux anges quand même, hein, même si elle avait quand même beaucoup de... C'est pas quelqu'un de facile à rouler dans la farine, Josette Audin. Hein. Bon, le président qui lui met la main sur le genou, me semble-t-il, qui lui demande pardon, etc. Mais ça, cette communication, cette mise en scène, était suivie d'une déclaration extrêmement longue, impeccable sur le plan historique, s'agissant de l'affaire Maurice Audin, reconnaissant même l'implication de l'armée dans l'instauration d'un système de terreur à Alger. Ce sont les mots qui sont utilisés. Et il faut savoir que ce genre de déclaration, c'est négocié avec les partis concernés au sein du pouvoir. Et que cette déclaration qui a été écrite par des historiens et surtout une historienne, elle a été négociée avec le chef d'état-major des armées qui a accepté. Bon, il n'a pas tout accepté, il y a eu mais chaque mot est négocié. Bien. Là, ce qu'on a eu sur le 17 octobre, c'est les images suivies d'un communiqué très court, une petite page, alors qui fait un rappel de l'événement qui n'est pas de la description de la journée, la rafle, les morts par dizaines, bon, voilà, mais qui, dès les premières lignes, insiste sur l'illégalité de la manifestation des Algériens le 17 octobre. C'est-à-dire qu'il y a deux fois le mot. Donc, il y a une manifestation interdite. Alors, il faudrait qu'on vérifie, je n'ai pas eu le temps du tout, hein, vraiment s'il y a eu communication d'une interdiction de manifestation. Elle n'était pas déposée, naturellement. Personne n'a cherché à la faire autoriser. Bon, tout ça. Bon. Et puis, deuxième chose, alors là, c'est carrément un mensonge. Il est dit que le couvre-feu avait fait l'objet d'un décret. Or, il n'y a pas eu de décret. Hein, l'historienne Sylvie Thénault a eu le temps, elle, de vérifier, parce que moi aussi, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Bon, il n'y a pas eu de décret. Alors, ces deux mots-là, moi, je vois bien la négociation avec Darmanin à table qui dit, rappelez qu'ils n'avaient pas le droit d'être là. Hein, que finalement, s'ils étaient restés dans leur bidonville, on ne les aurait pas tués. Hein, parce que c'est ça le sous-entendu de cette insistance sur l'illégalité. Et ça, personnellement, j'ai trouvé ça assez dégueulasse. Bon. Et puis, bien sûr, ça a été plus souvent remarqué, la responsabilité de ce crime, c'est Maurice Papon. C'est la faute à Maurice. Hein, il n'est même pas mentionné qu'il était préfet de police. Le mot police ne figure pas. Et là encore... j'imagine bien Darmanin dire « rayez-moi ce mot hein ». Parce que c'est comme ça que ça se passe. Alors, c'est tout à fait emblématique de la position de la situation politique actuelle et de du positionnement de Macron qui a fait campagne quasiment comme le futur premier président décolonial de France. Il est allé déclarer à Alger que la colonisation était un crime contre l'humanité. Hein, bon, dès le lendemain, à Toulon, il a dû rétro-pédaler parce qu'à Toulon, il y a beaucoup de descendants de pieds noirs et il se faisait huer. Bien. Et puis, au fil de son mandat, ben, vous avez bien vu la droitisation des choses. On est en campagne électorale Macron, c'est les voix de droite qu'il veut capter, hein, de la droite nationaliste, voire de l'extrême droite. Et donc, il est dans un étau où il sait quand même qu'il continue à essayer de donner le change parce qu'il sait bien qu'en même temps, hein, c'est le cas de le dire, dans la société française, dans la jeunesse française, il y a un mouvement de fond pour la lucidité sur l'histoire coloniale, pour qu'on regarde en face l'héritage du colonialisme, notamment le racisme et l'islamophobie qui fleurissent. Voilà. Donc, il y a eu le mouvement... En 2020, ce qu'on appelait les déboulonneurs de statut, c'est-à-dire cette volonté de faire en sorte que dans la République française, on n'honore plus, en leur donnant des noms de rue ou en leur dressant des statuts, des gens qui ont été d'infâmes salopards, hein, des massacreurs coloniaux, des bugeauds ou des esclavagistes, etc. Bon. Donc, voilà. Alors, c'est encore plus compliqué que ça, parce qu'il y a eu des récentes déclarations qui ont été faites pour fâcher l'Algérie, où il a sorti quelques poncifs coloniaux sur l'inexistence de la nation algérienne, etc. Hein. Mais voilà, ma réponse est quand même un peu trop longue, là. Hein, j'arrête. Hein.
Est-ce qu'il serait possible de faire un point, en fait, par rapport au manuel scolaire et de ce qui en est dit ou non, en fait, sur la guerre d'Algérie et sur le 17 octobre ?
Oui, alors, c'est une question quand même assez compliquée. Alors, pour commencer, la colonisation, la guerre d'Algérie ont toujours été enseignées. La colonisation, longtemps, elle a été glorifiée dans les manuels scolaires, hein. Alors, elle ne l'est plus. Mais il faut distinguer donc ce qu'on enseigne au collège, ce qu'on enseigne au lycée. Au collège, il se trouve que la guerre d'Algérie est au programme de 3e et que les profs ont le choix entre l'indépendance de l'Inde et l'indépendance de l'Algérie. Hein. Et surtout, alors évidemment, ceux qui veulent éviter la guerre d'Algérie, ils peuvent faire l'Inde. Quoi. C'est ça la logique, hein, des gens qui font les programmes. Hein. Parce que ce sont des gens qui sont complètement crispés, terrorisés par des choses qu'ils ne connaissent pas. Alors que sur le terrain, moi j'ai enseigné longtemps, Je n'ai jamais eu le moindre problème à enseigner la colonisation, l'esclavage, la guerre d'Algérie. Bon, bref. Au lycée... Alors non, je vais faire plus court que ça. Et le très gros problème, c'est que la guerre d'Algérie, elle est enseignée indépendamment de ce qui permet de comprendre la guerre d'Algérie, c'est-à-dire les 132 ans de colonisation de l'Algérie. Voilà. Hein ? Donc, en quatrième, on peut parler de la conquête de l'Algérie, mais seulement de la conquête, un petit peu de la société coloniale. Mais on peut seulement, c'est pas on doit. Hein ? Et on le fait souvent pas parce que souvent les profs sont pas formés, parce que ben, l'enseignement sur ces choses-là, il est quand même pas très développé actuellement. Et donc, c'est ça le gros problème. Donc, voilà. Quant au 17 octobre, proprement dit, il a encore moins de place. Alors, vous savez, le 17 octobre 61, ça n'est pas un événement capital dans l'histoire de la guerre d'Algérie. Hein. C'est pas un tournant, c'est pas quelque chose qui est immanquable dans la chronologie, dans un cours qui est forcément fait sur très peu de temps, demander voilà, des élèves qui ne sont pas des étudiants en master. Hein, bon. En revanche, c'est un événement extrêmement important dans l'histoire de l'immigration en France. Hein, j'ai l'habitude de dire que c'est un massacre colonial et c'est aussi la répression d'une manifestation antiraciste de l'immigration. Et c'est peut-être la première grande manifestation de masse antiraciste de l'histoire de France. Enfin, une tentative de. Hein, bon. Et de ce point de vue-là, ça devrait avoir sa place, à mon avis. C'est un événement complexe, quoi. Hein, bon. Et là, l'histoire de l'immigration, elle est quand même le parent pauvre hein, de l'enseignement dans le secondaire. Et donc, le 17 octobre, alors il est dans certains manuels scolaires, il est même parfois... Alors, en terminale, il y avait une question que Blanquer a considérablement retirée dans plein de sections. Hein. C'est pas la pire chose qu'il ait faite, il a fait encore bien pire, mais enfin... Il y a encore, dans certaines sections, donc, un chapitre qui s'appelle « L'historien et les mémoires ». Et les mémoires. Qui a le choix entre les mémoires de la Seconde Guerre mondiale... et les mémoires de la guerre d'Algérie. Alors, devinez laquelle est le plus souvent choisie par des profs qui connaissent bien mieux une chose que l'autre, qui jugent aussi peut-être moins délicate. Hein, bon. Mais là, il y a matière à parler du 17 octobre, qui est d'ailleurs, j'ai vu dans un document officiel des Duscol, qui est proposé comme objet d'étude. Quoi. Bon. Mais s'il est dans les manuels scolaires, il est extrêmement refroidi. C'est-à-dire que toute l'horreur, la honte de cette histoire est forcément gommée parce que cette l'horreur coloniale, elle ne peut pas être montrée. Hein. On peut montrer l'horreur nazie, mais on ne peut pas montrer l'horreur coloniale dans toute son horreur. Quoi. Si on peut, il y a des textes dans les manuels de collège qui racontent que l'armée française coupait des têtes de malgaches et les exposait le long des routes. Mais c'est quand même assez exceptionnel, puis c'est loin, c'est dans un lointain. Là, on est à Paris, hein, ce qui est difficile à reconnaître dans le 17 octobre, pourquoi il y a eu tout ce cinéma ce week-end avec Macron, c'est qu'il faut arriver à dire que sous le général de Gaulle, sous notre république si formidable, la police républicaine a assassiné, dans une sauvagerie raciste, des gens pacifiques en plein Paris. Bon, ben ça, c'est pas facile. C'est toujours pas possible. Hein, voilà.
Je voudrais savoir ce qu'on peut attendre aujourd'hui de la part du gouvernement et tout ça, en termes de reconnaissance et d'action sur tout ce qui s'est passé.
Ben moi, je pense fondamentalement que ce qu'il faudrait arriver à faire... c'est que la France accepte de dire qu'elle est certes l'héritière, la République française, elle est l'héritière de la Déclaration des droits de l'homme, des Lumières, etc., mais elle est aussi l'héritière de 4 siècles d'esclavagisme et de colonisation. Et c'est quelque chose qui a laissé des traces extrêmement importantes hein, dans l'imaginaire, dans les institutions, dans l'ordre social. Bon. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à faire et qu'on est peut-être moins capable de faire que le président actuel de la République est peut-être moins capable de faire qu'il y a 20 ans parce que la pression du nationalisme, du racisme, n'a jamais été aussi forte depuis probablement la guerre d'Algérie en France. Hein. Voilà. Et ça, ça a interdit, on voyait bien les débats. On a même eu droit quand même à une chasse, un début de chasse aux sorcières chez les chercheurs qui travaillent sur les questions soi-disant décoloniales. Bon, parce que ça, on sait pas très bien de quoi ils parlent. Ils savent pas très bien non plus eux-mêmes de quoi ils parlent. Hein. Avec des gens qui font des listes, hein, de chercheurs qui sont qualifiés de séparatistes. Alors le dernier truc à la mode, c'est le woke, le wokisme. Alors, je voudrais rappeler quand même une chose, c'est que le mot woke en question, il signifie être sensibilisé à la lutte contre les inégalités. Mais visiblement, ils ont un problème avec ça. Vous avez vu que même Blanquer a lancé un pseudo laboratoire de lutte contre, je sais pas comment il l'appelle exactement, le wokisme. Bon, voilà. Donc on est quand même dans une séquence extrêmement grave et inquiétante, hein, sur le fil, quoi. Hein. J'ai pas besoin de vous rappeler l'écho qu'a le monstre dont le nom commence par Z, qui a été fabriqué par les médias et qui a pris son envol tout seul, hein, comme je ne sais plus quel monstre de la mythologie. Hein. Bon, voilà. Donc c'est ce qu'il faudrait faire, c'est ça. Et pas comme pour faire plaisir à l'Algérie ou à je ne sais qui, pour pouvoir se regarder en face. C'est une vérité. Alors, je crois que la phrase est dans le communiqué. C'est une vérité que la France se doit à elle-même d'abord et avant tout. Parce qu'il y a une tentation aussi très, très répandue, c'est de prendre ça comme un bon procédé diplomatique, quoi. Hein ? Alors, on va détendre les relations avec Tebboune. Hein, on va voilà, mais non, enfin tout ça c'est de l'instrumentalisation, et je dois dire que Macron a accusé le pouvoir algérien d'instrumentaliser l'histoire, ce qui est vrai, mais il ne l'instrumentalise pas moins, hein. C'est un peu différent, mais lui aussi il l'instrumentalise à des fins politiciennes, c'est parfaitement clair, hein. Quand il a fait ses déclarations sur la nation algérienne qui n'existait pas, sur la colonisation par les Turcs entre guillemets, vous voulez parler des Ottomans, qui aurait été la même chose que nous, mais avant. Hein, et ça, on n'en parle pas. C'est comme ça, c'est un peu le propos de Café du Commerce qui font bien rigoler les historiens. Hein, tout ça, c'était des gages donnés à la droite nationaliste, hein, en France. Hein, plus la volonté de tendre les rapports, de jouer... sachant que les rapports avec l'Algérie, ils se jouent en réalité... Mais ça, c'est pas public, sur des négociations, sur, par exemple, le dossier malien, les contrats commerciaux entre la France et l'Algérie, et que l'utilisation de la mémoire de la guerre d'Algérie, ce sont des messages codés, quoi, hein, qui s'envoient les uns et les autres. Bon.
Sur un piédestal par le gouvernement, mais qui fait pas forcément l'unanimité,
que ce soit
en France
ou
en Algérie.
Oui. Sur le rapport Stora.
Bon, c'est le choix de Benjamin Stora qui a joué un rôle absolument énorme, hein, dans l'histoire de l'historiographie de la guerre d'Algérie déjà, et puis la reconnaissance publique d'un certain nombre de choses relatifs à l'histoire de la colonisation de l'Algérie, de la guerre d'Algérie. Hein. C'est son choix, depuis un certain nombre d'années, déjà il l'a fait sous François Hollande, de répondre aux sollicitations du pouvoir, parce que moi je l'ai déjà entendu dire ou lu, écrire que ce que font les historiens c'est bien, mais ça ne sert pas à grand-chose, et que ce qu'il faut c'est faire de la politique. Hein. Et donc, alors moi c'est un choix qu'en soi je respecte. Bon, il a accepté donc de la lourde charge de faire tout seul un rapport qui s'intitule « Mémoire de la colonisation et de la guerre d'Algérie ». Il a consulté beaucoup de monde, beaucoup, beaucoup de monde avant de l'écrire, mais il l'a fait tout seul, parce que quand même, c'est pas une commission par exemple, hein. Vous savez que sur le Rwanda, bon, il y aurait des choses à dire sur cette commission, mais il y a eu une commission, donc c'était un truc collectif. Là, c'est un seul homme. Et alors évidemment, cet homme seul, quand il y a des critiques, c'est lui qui les prend dans la figure. Et, le fond de l'affaire, c'est la commande. Hein. Le rapport, il répond à une commande et évidemment, il est calibré pour satisfaire la commande. Hein. D'ailleurs, les préconisations finales du rapport, elles ont été négociées avec l'Élysée avant d'être publié, parce qu'on voilà, on peut pas demander des choses qui seraient refusées évidemment par le pouvoir. La problématique générale, qui est celle de Macron, c'est celle de la réconciliation. Hein, c'est réconcilier les mémoires. Alors, je dois dire que moi, ça me paraît assez fumeux comme problématique. J'ai un ami, François de Merliat, qui me faisait remarquer l'autre jour qu'il y a un problème avec ce mot de réconciliation s'agissant de la France et de l'Algérie. Parce que pour se réconcilier, il faut avoir été auparavant, en bonne entente. Or, auparavant, il y a eu quoi ? Il y a eu 132 ans de colonisation. Il y a eu une conquête d'une brutalité extraordinaire. Il y a eu des crimes, faut le dire. Hein. On a, de 1830 à 1962, la France a commis un certain nombre de crimes contre l'humanité en Algérie. Bon, je ne vais pas le détailler. Hein. De spoliation, d'humiliation, de... bien. Et donc... moi, je répète, la France pourra donner des leçons de politique mémorielle à la terre entière lorsqu'elle aura fait ce qu'elle doit faire là-dessus. Elle n'arrive pas à le faire. Hein. Et donc, cette problématique, elle est fumeuse. Et à mon avis, pour Macron, c'est pas forcément la problématique de Stora, mais la guerre d'Algérie, c'est une formidable boîte à outils... politico-mémorial à des fins politiciennes, électoralistes. Un coup pour les harkis, ça fait plaisir à la droite et à l'extrême droite. Un coup pour le 17 octobre, c'est censé faire plaisir à la prétendue communauté française d'origine algérienne. Sauf que le fond, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit tout à l'heure, le fond du problème qui est de reconnaître ce qu'a été la colonisation, c'est pas sur la table, quoi. Et c'est pas sur la table du rapport Stora qui dit je fais le choix, il en est parfaitement conscient, de faire des petits pas. Des actes symboliques, c'est mieux, etc. Bon, ben, voilà, je n'ai pas besoin de dire que je ne suis pas d'accord avec cette façon de faire, mais bon, voilà. Alors, vous savez, derrière la problématique de la réconciliation, il y a très souvent, implicitement ou pas, le parallèle qui est fait avec la réconciliation franco-allemande après la Deuxième Guerre mondiale. Bon. Qu'est-ce qui ne va pas dans cette histoire ? C'est que d'abord, toute chose égale par ailleurs et sans faire d'amalgame. L'occupation de la France, elle a duré 4 ans. L'occupation française en Algérie, elle a duré 132 ans. La réconciliation entre la France et l'Allemagne, elle a été possible parce qu'après la guerre, l'Allemagne a reconnu pleinement le caractère criminel de cette occupation, de son occupation en France, a renié le nazisme, etc. Alors, je ne suis pas en train de dire... j'étais sur un plateau télé hier avec Madame Valérie Boyer, les sénatrices Les Républicains des Bouches-du-Rhône, qui a dit qu'elle était absolument scandalisée parce que j'avais osé faire ce parallèle. Je ne suis pas en train de dire que le nazisme et le colonialisme, c'est exactement la même chose. Non, c'est deux choses différentes. Mais enfin... Je pense que tout le monde comprend bien pourquoi on peut quand même en parler. Mais la France, elle n'a pas renié le colonialisme. On n'a jamais déconstruit la propagande coloniale en France, jamais. Une fois l'empire colonial terminé, enfin plus ou moins terminé, hein, en 62, on a tourné la page sans jamais vouloir la lire. Et que le travail de décolonialisation des imaginaires en particulier et de tout le reste n'a jamais été fait. Et c'est ça qui devrait arriver à l'ordre du jour. On est plutôt mal barré à l'heure qu'il est, hein, quand même. Bon.
Tout à l'heure, vous avez parlé de boîte à outils gouvernementale, je ne sais pas quoi. Est-ce qu'on ne pourrait pas citer, par exemple, la notion d'état d'urgence qui a été créée pendant la guerre d'Algérie ? L'état d'urgence qu'on connaît actuellement maintenant, qui a été utilisé par plusieurs gouvernements, hein, pas uniquement Macron. Les camps aussi. Il y a eu des camps qui ont été institués en France de 59 à 62, où il y a eu des milliers d'Algériens qui ont été enfermés arbitrairement par la police, toujours la même chose. Et les centres de rétention administratifs actuels, où il y a une notion d'arbitraire aussi.
Bien sûr, oui. Ben, vous savez, l'état d'urgence, il a été inventé pour l'Algérie en 55. C'est donc ce qui permet d'enfermer des gens sans... que la justice n'ait la moindre, enfin, de façon arbitraire, hein, sur décision administrative, bon, parce que la personne est jugée suspecte de pouvoir éventuellement troubler l'ordre public. Donc ça a servi effectivement à enfermer des dizaines et des dizaines de milliers d'Algériens dans des camps pendant des années où se passaient des choses assez terribles. Et puis ça a été réactivé quand en France, la dernière fois, l'avant-dernière fois, ben, pendant les émeutes dans les quartiers populaires après la mort de Zied Ebouna en 2005. Hein bon, c'est-à-dire que voilà, ça a été aussi utilisé en Nouvelle-Calédonie, ok, et après en Seine-Saint-Denis, quoi, pour aller vite. Hein, j'ai pas besoin de faire de dessin. On est dans un imaginaire politique totalement colonial. Hein, il s'agissait de d'essayer de mettre au pas ces jeunes que noirs et arabes, hein, qui osaient ouvrir leur gueule, voilà, bon, en faisant parfois quelques dégâts, hein, c'est sûr. Bon, mais oui, l'état d'urgence, il est rentré dans la loi commune depuis quelques années. Hein, un certain nombre de dispositions comme ça qui permettent de faire des choses qui paraissaient impossibles il y a encore quelques temps, comme d'arrêter préventivement les gens avant les manifestations, comme de les assigner à résidence. Hein,
c'est... À l'heure actuelle, nous sommes encore sous le régime de l'état d'urgence, à l'heure actuelle.
Oui, alors maintenant, écoutez, oui, entre l'état d'urgence... Alors, enfin, je crois qu'il y a eu un passage... L'état d'urgence tel que celui dont on parle là, celui de 2005 ou celui de 55 en Algérie, je crois qu'il n'est plus en vigueur. J'ai peur de dire une connerie là, mais il y a eu des dispositions de l'état d'urgence qui sont rentrées dans la loi ordinaire, ce qui est encore pire. Hein, et puis il y a l'état d'urgence sanitaire qui est encore une autre histoire. Mais oui, sur les centres de rétention, bien sûr, on est dans une logique comparable.
Et à propos de la réconciliation, moi, ce que je voudrais dire, c'est que il y a beaucoup d'associations, aussi bien du côté français que du côté algérien, qui n'ont pas attendu les discours de Macron pour pratiquer la réconciliation depuis fort longtemps.
Bien sûr, mais bien évidemment, oui. Après, voilà, il y a aussi une chose quand même assez stupéfiante, c'est, vous savez, l'autre jour, quand il a fait ses déclarations volontairement agressives à l'égard du pouvoir algérien, on avait l'impression d'avoir un gosse à qui on avait donné un jouet qui marchait plus, quoi. Il a intimé l'ordre à l'Algérie de se réconcilier et il est furieux parce que l'Algérie ne veut pas. Bah oui, il n'est pas le président de l'Algérie, hein, Jean Castex a même rappelé, comme il a tenté de calmer les choses à l'Assemblée, il a dit mais nous respectons la souveraineté algérienne. Bah oui, tu m'étonnes. Hein. Je ne sais plus pourquoi je disais ça, voilà.
Est-ce qu'il y aurait une dernière question ?
Alors, juste un mot encore quand même pour raconter quelque chose qui n'a peut-être pas passé forcément dans les médias. Alors, bon, c'est raconté sur les réseaux sociaux, hein, c'est ce qui s'est passé. Donc, on a parlé de ce qui s'est passé le 16 octobre au pont de Beson avec Macron. Et le 17 octobre, comme tous les ans, mais surtout comme tous les 10 ans, il y a eu une grande manifestation à l'appel de 120 organisations qui est partie du Grand Rex au lieu du crime et qui est arrivée au bord de la Seine, au Châtelet, c'est-à-dire à l'entrée du pont Saint-Michel. Le matin même, on avait vu cette chose tout à fait stupéfiante de voir le préfet Lallemand, qui est quand même celui qui symbolise aux yeux d'une grande partie des Français la violence policière brutale, celle qui a quand même éborgné un certain nombre de gens, qui a tué Zineb Redouane notamment, ou Steve Canico. Donc le préfet Lallemand venir déposer une gerbe, alors c'est par surprise, hein, seuls les médias avaient été prévenus, alors sans dire un mot non plus, bien sûr, hein, avec trois ou quatre types derrière en uniforme qui étaient au garde-à-vous, il a posé ça en vitesse, il n'avait même pas, paraît-il, son grand uniforme, bon, enfin, je ne sais pas quel sens ça avait. Bon, évidemment, s'il a fait ça, c'était à la demande, ou en tout cas avec l'accord de l'Élysée. Hein. Alors ça, j'ai une amie qui a dit, ben ça, c'est le memorial washing. Hein. C'est-à-dire que l'Allemand s'est offert une petite... je me demande, dans son esprit, c'est pas quand même un peu de la provocation. Voilà. Et la manif... Pardon, je suis un peu confus. La manif a fini par arriver l'après-midi de ce même jour, au bord de la Seine, à l'entrée du pont Saint-Michel. Et là, la même police du même préfet allemand nous a barré la route et nous a empêchés de faire ce qu'on fait. Alors, pas seulement à Paris. Hein. Moi, j'habite Besançon, ça se fait à Besançon depuis 20 ans, dans des tas d'autres villes de France. Aller jeter des fleurs dans la Seine en mémoire des Algériens assassinés le 17 octobre. Il a fallu attendre une heure. C'était ridicule. Moi, j'ai foutu le camp parce que c'était insupportable. Alors, il faisait semblant de négocier des trucs avec la préfecture pour savoir si on allait pouvoir aller approcher du quai de Seine. Alors qu'on était sur la place du Châtelet, il y avait des centaines de personnes avec des fleurs dans les mains. Ils ont laissé passer 10 personnes au bout d'une heure et les autres sont entrés avec leurs fleurs. C'est quand même un moment, un grand moment, quoi. Hein, de captation par l'État d'une pratique de deuil, de commémoration. Et dans le cortège, il y a des gens qui sont directement touchés par cette histoire. Hein. Il y avait dans le cortège plein de gens qui... Il y a encore plein de gens, de survivants, qui étaient jeunes à l'époque, pour qui c'est une pratique de deuil absolument essentielle. Quoi, hein. Voilà. Bon, ça dit beaucoup de choses quand même, je trouve, cette petite histoire. Voilà. Vous n'avez plus rien à dire, on va arrêter. Hein.
Merci d'être venu à toutes et tous. Merci. Merci Fabrice.
C'était Rencontre avec Fabrice Rissé-Pouty autour de son livre Ici, on noya les Algériens, paru aux éditions du Passager clandestin.
Sur le livre où dormir.